15h ici à Paris, 9h à Port-au-Prince.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
La dernière demi-heure de RFI Midi sur le continent américain. Dans un instant, nous serons au Gonaïves, en Haïti, où les habitants s'inquiètent d'une éventuelle offensive des gangs armés.
Quand vous n'avez pas de stratégie bien définie, quand les autorités étatiques ne prennent aucune disposition pour transférer la peur dans le camp des bandits et qu'ils continuent à circuler comme ils veulent, ils prennent autant de territoire qu'ils souhaitent. Voilà pourquoi on croit aux menaces.
Un dossier de Ronel Paul à suivre. Aux États-Unis, Joe Biden est sorti du silence presque 2 mois après avoir quitté la Maison Blanche. Son successeur Donald Trump lui poursuit son offensive contre Harvard, le monde de la recherche et les scientifiques. On entendra leurs inquiétudes. Et puis l'actualité des Outre-mer, bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour.
Et donc à la une.
Nous irons en Martinique où l'état des rivières serait inquiétant. Les dégradations constatées dans les rivières de la Martinique seraient importantes, pour ne pas dire inquiétantes. Nous en parlerons tout à l'heure.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Mais d'abord, le journal. Avec Karine Bellicha, et on commence, Karine, par la situation dans les territoires palestiniens. Les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza. Aucune assistance humanitaire n'entre dans l'enclave depuis 1 mois et demi.
Et la situation n'est pas prête de s'améliorer, malgré le constat terrible de Médecins Sans Frontières qui affirme que Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens. Le ministre israélien de la Défense l'assure, jusqu'à nouvel ordre, aucune aide humanitaire ne rentrera dans Gaza. Israël Katz promet également que même en cas d'accord de paix, l'armée restera déployée dans plusieurs zones de l'enclave palestinienne.
Et c'est dans ce contexte qu'est célébré le jour des prisonniers palestiniens.
Chaque année, des commémorations ont lieu le 17 avril. Cette année, les rassemblements se tiennent sur 2 jours. À Ramallah, en Cisjordanie, une manifestation a eu lieu ce matin pour tenter d'attirer l'attention sur le sort des détenus, un sujet fédérateur dans la société palestinienne. À Ramallah, le reportage d'Amira Souilem.
Le regard triste, elle tient le portrait d'un jeune homme dans la foule. De lui, Rola Khaledranem dit ne plus avoir de nouvelles.
Ce jeune est mon fils, il s'appelle Yazan, il a 20 ans. Les forces d'occupation l'ont arrêté à la maison il y a 3 mois. Ils sont entrés de façon très brutale et l'ont pris à 4 heures du matin. À ce jour, je suis coupée de mon fils. Son avocat ne peut le voir que par Zoom et nous, les proches, on n'a ni le droit de le voir ni d'entendre sa voix.
Comme son fils, au moins 9900 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes selon les chiffres d'ONG palestiniennes. Combattants, militants politiques, mais aussi simples étudiants ou pères et mères de famille. Dans la foule, un des organisateurs du rassemblement. Selon lui, les conditions de détention vont en se détériorant.
Avant, on critiquait le laisser-aller médical parce que les responsables des prisons mettaient du temps à emmener les détenus dans une clinique s'ils allaient mal. Maintenant, on répertorie des crimes médicaux dans les prisons, ainsi que des disparitions secrètes.
Depuis le 7 octobre 2023, les arrestations se sont accélérées. Des chiffres qui ne comprennent pas les milliers d'arrestations et disparitions arbitraires à Gaza, préviennent les ONG palestiniennes. Amira Souilem, Ramallah, RFI.
Dans l'actualité également, la détente entre Paris et Alger qui semble bien loin.
La France a répliqué aux expulsions décidées par l'Algérie et Alger attribue avec insistance l'entière responsabilité de cette montée des tensions au ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Par communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères accuse le ministre de barbouzerie à des fins purement personnelles. Du côté du gouvernement français, on assure qu'il n'y a pas d'affaire Retailleau. Paris rappelle que la justice est indépendante en France après l'arrestation d'un agent consulaire algérien et que le ministre de l'Intérieur n'y est donc pour rien.
Le jugement rendu à Londres pourrait trouver un écho jusqu'aux États-Unis où Donald Trump mène une croisade contre les droits des personnes transgenres.
La Cour suprême britannique a tranché. La définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique et non sur le genre. Les militants pour les droits LGBT s'inquiètent des conséquences de cette décision. À Londres, les explications d'Emeline Vin.
Dans la loi, le terme « femme » renvoie au sexe biologique, selon la Cour suprême britannique. Et donc, sur le plan légal, une femme transgenre ne peut pas être considérée comme une femme, par exemple, pour le calcul des quotas ou de la parité dans les conseils d'administration, même si elle possède un certificat de reconnaissance de genre. C'est une décision unanime de la plus haute institution judiciaire britannique qui estime qu'au regard des lois sur l'égalité et contre les discriminations, le sexe ne peut être que binaire et qu'il serait incohérent d'inclure le sexe en certificat selon sa formule. Ce jugement représente une victoire pour certains groupes féministes écossais qui contestaient la position du gouvernement d'Édimbourg. Selon elles, considérer les femmes transgenres comme des femmes comme les autres risque de permettre à des hommes violents d'accéder à des espaces non mixtes comme les vestiaires, les refuges pour victimes d'abus sexuels ou de violences conjugales. La décision pourrait par effet domino restreindre l'accès des femmes transgenres à ces espaces. La Cour souligne qu'il ne s'agit pas d'une victoire d'un groupe sur un autre et rappelle qu'il est interdit de discriminer une personne au prétexte qu'il ou elle est transgenre. Emeline Van Londres, RFI.
Pas question pour Donald Trump de laisser ses ministres gérer le dossier des droits de douane.
Initialement, le président américain ne devait pas être présent lors des négociations qui ont lieu à Washington aujourd'hui avec Tokyo. Il a finalement décidé de se joindre aux discussions. Il faut dire qu'elles s'engagent sous les meilleurs auspices. Le constructeur automobile Honda a déjà annoncé la relocalisation du Japon aux États-Unis de la production de sa voiture civique à moteur hybride. À Tokyo, Frédéric Charles.
Honda assure que sa décision de transférer la production de son modèle hybride 5 portes Civic de l'usine japonaise de Saitama dans son usine de l'Indiana aux États-Unis n'est pas motivée uniquement par Donald Trump et ses surtaxes douanières de 25%. Il produit ses voitures là où la demande est la plus forte, dit-il. Aux États-Unis, il fabrique déjà deux de ses voitures les plus populaires, la Civic hybride et son modèle phare SUV CRV. Il n'a exporté du Japon l'an dernier qu'un peu plus de 5000 Civic hybrides. Mais ce que cherche à faire Honda est de concentrer graduellement la production de ces deux modèles aux États-Unis pour pouvoir répondre à 90% de leurs ventes contre 70% actuellement. Une partie de ces deux modèles est fabriquée au Canada, donc soumise aux droits de douane américains. Honda dit vouloir maintenir leur production au Canada au niveau actuel. Pour le moment, Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Quelques mots modifiés et c'est tout un édifice qui tangue.
En matière d'ambition écologique, le climat n'est pas favorable. En témoigne la décision prise par la Net Zero Banking Alliance. Les 128 banques membres de ce programme onusien ont décidé d'en amender le règlement. Un règlement désormais moins favorable à la lutte contre le réchauffement climatique. Pauline Glaise nous a rejoint pour décrypter ces changements. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Les petites modifications dans le texte ont en fait potentiellement un gros impact.
Oui, alors c'est une histoire de mots, de chiffres et surtout donc de subtilité. Les directives de la Net Zero Banking Alliance, la NZBA, sont devenues de simples orientations. Et puis il n'y a plus d'exigences, mais des recommandations. Côté chiffres, l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré est remplacé par bien en dessous de 2 degrés en s'efforçant d'atteindre 1,5 degré. Alors cela peut sembler être un point de vocabulaire, mais cela rend l'alliance moins ambitieuse. L'ONG Reclaim Finance dénonce même un immense bond en arrière. Il faut dire que le contexte politique n'y est certainement pas pour rien. Après l'élection de Donald Trump, dont l'un des slogans de campagne fait l'apologie des hydrocarbures, 6 grandes banques américaines ont quitté la NZBA, puis d'autres banques canadiennes et japonaises ont suivi le mouvement. Alors un responsable de la NZBA assure que l'Alliance veut continuer à soutenir l'accord de Paris. Tous n'ont pas la même lecture. Triodos Bank vient de claquer la porte. La petite banque néerlandaise regrette que les nouvelles lignes directrices ne répondent pas à l'urgence climatique.
Pauline Glaise du service environnement de RFI.
Et c'était le journal de Karine Bellicha.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
En Haïti, donc, le gang Cocorat Sanra, installé à l'entrée sud des Gonaïves, serait avec d'autres groupes armés en train de planifier une attaque sanglante contre cette ville d'environ 300 000 habitants. Depuis plusieurs semaines, des messages de menaces tournent en boucle sur les réseaux sociaux, notamment dans des groupes WhatsApp. De quoi susciter la peur au sein de la population qui se sent vulnérable face à ces gangs qui ont déjà envahi fin mars la ville de Mirebalais dans le département du centre. Dossier signé Ronel Paul.
Depuis l'annonce d'éventuelles attaques des bandits sur la ville des Gonaïves, Maître Jobet Janit, avocat au barreau des Gonaïves, ne dort que d'un œil. Il dénonce régulièrement les exactions du gang Kokorat sans race et il craint donc d'être l'une de leurs principales cibles s'ils parvenaient effectivement à prendre la ville. Jobet Janit.
Effectivement, un ensemble de habitudes, par exemple.
Il y a certaines habitudes, par exemple sortir avec des amis, aller en boîte, que j'ai dû éliminer totalement. Je suis obligé de prendre très au sérieux ces menaces, parce que le chef de ce gang avait même cité mon nom comme étant quelqu'un qui représente une menace pour eux, puisque je dénonce régulièrement les actions manquées de la police nationale contre le gang Kokorat sans race. S'il parvient à attaquer la ville, je serai le premier à être ciblé.
Jobet Janit est loin d'être le seul à être aux abois face à un éventuel l'assaut des gangs sur la cité de l'Indépendance. Cabral Pierre-Saint est journaliste. Il constate dans son quartier que les habitants sont de plus en plus stressés et selon lui, ils ont de bonnes raisons de l'être.
Si on sait l'intensité route nationale.
Il fut un temps où les gangs occupaient seulement les routes nationales. Maintenant, ils veulent prendre des villes. Mirbalé en est un exemple frappant aujourd'hui. Ils avaient annoncé qu'ils allaient attaquer Mirbalé. Les autorités n'avaient pris aucune disposition pour les en empêcher et ils ont envahi la ville. Quand vous n'avez pas de stratégie bien définie, quand les autorités étatiques ne prennent aucune disposition pour transférer la peur dans le camp des bandits et qu'ils continuent à circuler comme ils veulent, ils prennent autant de territoire qu'ils souhaitent. Voilà pourquoi on croit aux menaces.
Vous prenez territoire, vous voulez, ça fait nous-mêmes nous croyons ça.
Et il n'est pas le seul. De leur côté, les autorités de la commune des Gonaïves se montrent très préoccupés par les menaces à des gangs. Depuis plusieurs semaines, la direction départementale de la Défense, la délégation, la municipalité et le commissaire du gouvernement multiplient les rencontres avec différents secteurs de la société civile. L'objectif, trouver un moyen efficace de mettre à mal toute tentative d'invasion criminelle de la cité de l'Indépendance. Chez les forces de l'ordre, le niveau de vigilance est en alerte rouge. Hormis des contrôles d'identité réguliers dans des points stratégiques, des patrouilles policières ont été renforcées, affirme Fekir Kasséus, le porte-parole de la police nationale dans le département de l'Artibonite.
Donc, je ne vois pas comment que ces malfrats vont pouvoir accéder, mais nous sommes là. Et nous allons faire ce qui est nécessaire pour empêcher une éventuelle attaque, que la population reste sur le calme, que la population comprenne le travail, que la population collabore, que la population partage des informations, que la population comprenne que la sécurité s'effectue avec les informations. Et à partir de là, nous allons pouvoir donner des résultats ensemble.
Parallèlement, plusieurs groupes et anciens militants armés se sont manifestés pour défendre les habitants contre une éventuelle attaque du gang Kokorat sans race, à l'image de Wilfort Ferdinand, alias T-Will, un personnage controversé. Ancien chef du Front Résistance, le groupe armé du quartier populaire Raboto, celui qui avait poussé à l'exil en 2004, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Ronel Paul, RFI.
Et les gangs qui annoncent donc sur les réseaux sociaux leurs futures actions, ils s'en servent aussi pour mettre en scène leur succès et faire peur. Bonjour Marine de la Moissonnière.
Bonjour.
Le Nouvelliste a enquêté.
Oui, le journal a regardé plusieurs vidéos qui montrent des gens qui fuient, des gangs qui prennent possession des rues et des magasins, qui tuent, qui pillent, bref, des vidéos qui témoignent des exactions commises par les gangs, de leurs exploits macabres et de la barbarie qui s'abat sur Haïti, écrit le Nouvelliste. Certaines images de corps notamment sont terribles. Le journal a vu par exemple une vidéo d'un membre d'un gang en train de jouer au foot avec un crâne humain, apparemment la tête d'un habitant de Mirbalé. Ces images, écrit le quotidien, ne sont qu'un échantillon de la grande tragédie que vivent les Haïtiens depuis plusieurs années. Elles nous rappellent surtout que les groupes criminels se donnent un permis d'extermination et qu'ils exécutent leur œuvre destructrice malgré les promesses de nos autorités, faisant croire qu'elles travaillent pour le retour de la paix dans le pays.
À propos des autorités, justement, et des forces de l'ordre, le Nouvelliste se demande où sont passés les Kenyans déployés en Haïti.
Depuis le 25 mars dernier, quand un officier kenyan a été tué, on entend peu de nouvelles de la mission multinationale dirigée par le Kenya, écrit le quotidien. Les villes de Mirbalé et de Sodo tombent aux mains des criminels. Les Kenyans sont aux abonnés absents. Les groupes criminels étendent leur emprise sur 15 coffres. La présence kenyane ne suffit pas pour les repousser. Se désole le Nouvelliste qui rapporte qu'on ne voit plus désormais de blindés dans le centre-ville de Port-au-Prince. Prince, mais qu'on se rassure, selon un porte-parole de la mission interrogé par le Nouvelliste, la force multinationale a juste changé de stratégie. Nous parlons moins et agissons davantage, assure Jack Ombanka, qui parle d'opérations décisives et ciblées au cours des derniers jours, des opérations qui visent les chefs de gang et qui portent leurs fruits, assure-t-il. Au cours de la semaine passée, les gangs ont subi de lourdes pertes dont nous ne pouvons pas révéler le nombre, ajoute ce responsable. La force multinationale qui comprend pour l'instant plus de 1000 soldats et qui peut désormais compter sur des renforts jamaïcains. Une vingtaine d'officiers sont arrivés hier à Port-au-Prince, nous apprend encore le Nouvelliste.
Et face aux violences des gangs, le Royaume-Uni et la France appellent dans un communiqué qui vient d'être publié à maintenir les pressions. Ils expriment leurs préoccupations et ils demandent à adopter des sanctions.
RFI Midi, le monde à la mi-journée.
Allez, on continue à feuilleter la presse du continent. Marine, au Canada, c'est la campagne pour les législatives qui se tiendront le 28 avril qui fait la une, puisque ce soir a lieu le débat des chefs en français à Montréal, un grand oral télévisé donc en français pour tous les candidats.
Oui, un moment important de cette campagne qui a dû être avancée de 2 heures pour ne pas tomber en même temps qu'un match de hockey est très important. Cela peut surprendre, reconnaît Le Devoir, mais ce n'est pas la première fois. Déjà en 2011, le débat des chefs avait été reporté, là encore, à cause d'une partie de hockey. Il faut dire que ce débat est très important. Ce sera le premier face-à-face entre les deux principaux candidats au poste de Premier ministre, le libéral Marc Carney et le conservateur Pierre Poilievre, souligne la Gazette de Montréal. Et le Québec, avec 78 des 343 sièges en jeu le 28 avril, pourrait être décisif, explique le journal.
La Gazette de Montréal qui liste les enjeux pour chaque candidat.
Oui, alors nous, on va s'en tenir aux deux principaux, hein, si vous voulez bien. Pierre Poilievre, pour commencer, lui qui n'a cessé de critiquer tout le monde, va devoir apparaître comme un rassembleur. C'est sa mission, selon la Gazette de Montréal. En retard dans les sondages, Pierre Poilievre a de sérieux avantages. C'est un politicien chevronné, un redoutable débatteur qui ne recule devant rien. Et son français est plus raffiné et plus assuré que celui de Carney, analyse la Gazette de Montréal. En face, Marc Carney, donc le favori du scrutin. Mais l'exercice de ce soir pourrait s'avérer particulièrement compliqué pour lui car il ne parle pas très bien français. De plus, ce novice en politique n'a pas l'habitude de ce genre de joute verbale et comme il fait la course en tête pour l'instant, il risque d'être attaqué par tous les candidats ce soir, détaille la Gazette de Montréal. Mais Marc Carney pourra toujours se rattraper demain avec le débat des chefs, cette fois en anglais.
Marine de la Moissonnière pour la revue de presse. Pendant ce temps, aux États-Unis, un revenant dans le débat public, Joe Biden, l'ancien président, qui a fait sa première déclaration depuis son départ de la Maison-Blanche. C'était à Chicago pour défendre les aides sociales. À Washington, Guillaume Nodin.
Il était parti en disant aux Américains de se méfier de ce qu'il appelle le complexe techno-industriel. Joe Biden, la voix toujours aussi faible malgré 3 mois de silence, a repris les choses là où il les avait laissées. Devant une assemblée de défenseurs des Américains en invalidité, il accuse la majorité actuelle et ses soutiens de vouloir prendre aux pauvres pour donner aux riches en s'attaquant aux aides sociales.
They want to wreck it so they can run.
Ils veulent les casser pour pouvoir les voler. Et pourquoi veulent-ils les voler ? Ils veulent utiliser l'argent pour prolonger les crédits d'impôt pour les milliardaires et les grandes entreprises. Ils veulent rendre permanentes les baisses d'impôts de 2017 qui bénéficient dans leur immense majorité aux Américains les plus riches et aux grands groupes. Et ça va coûter 5 000 milliards de dollars. Où vont-ils trouver ces 5 000 milliards de dollars ? Ils vont creuser les déficits et ils vont chercher l'argent ailleurs, dans les aides sociales.
Pendant son intervention d'une vingtaine de minutes, Joe Biden reprend volontiers les accents et les slogans de sa campagne avant qu'ils doivent jeter l'éponge, en posant notamment plusieurs fois la question au sujet des Républicains. Pour qui se prennent-ils ? Réponse courte, pour ceux qui ont gagné. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et le successeur de Joe Biden, Donald Trump, lui, continue d'attaquer. Harvard, la prestigieuse université américaine, est une blague, dit-il, alors que son administration a décidé de lui geler plus de 2 milliards de dollars de subventions. La nouvelle administration, très offensive donc vis-à-vis des universitaires et aussi des scientifiques. Des centaines d'employés ont été licenciés à l'administration nationale des océans et de l'atmosphère. Des sites internet gouvernementaux contenant des données sur la météo et le climat ont été supprimés. Et ce n'est peut-être qu'un début. Des attaques qui pourraient avoir des effets au-delà des États-Unis, s'inquiète la climatologue française Valérie Masson-Delmotte.
La recherche américaine, elle pèse pour environ un quart de la recherche, par exemple, sur le changement climatique dans le monde. Et donc, le fait qu'il y ait moins de financement de thèses sur ces thématiques-là, moins de financement de contrats pour de jeunes scientifiques, c'est moins d'opportunités pour l'ensemble des jeunes scientifiques qui, souvent dans leur parcours professionnel, vont se former dans les meilleurs laboratoires aux États-Unis. On a également des échanges scientifiques qui sont amoindris. J'ai des relations professionnelles avec des collègues américains depuis très longtemps. Ceux qui sont fonctionnaires fédéraux ont l'interdiction d'échanger avec leurs collègues internationaux. Donc je n'ai plus en fait aucune réponse aux échanges professionnels que je pouvais avoir précédemment avec ces collègues scientifiques américains. Pour l'instant, on peut continuer à s'appuyer sur les bases de données qui sont archivées aux États-Unis. Mais on a une très grande inquiétude parce qu'on est très nombreux dans le monde à utiliser ces bases de données. Il y a un effort qui est en cours, une réflexion pour construire en fait des sites miroirs qui archivent et rendent accessibles ces données de sorte à permettre de continuer à les utiliser si jamais ces sites internet deviennent inaccessibles.
La climatologue française Valérie Masson-Delmotte, interrogée par Pauline Glaise.
RFI, la radio del mundo.
L'eau, l'électricité, le gaz, ce sont des services minimums qui ne sont pourtant pas assurés dans la grande majorité du Venezuela, y compris dans la capitale, à Caracas. L'accès à l'eau courante n'est pas garanti. Une préoccupation du quotidien pour les habitants et particulièrement pour les femmes qui s'occupent encore très souvent là-bas des tâches ménagères. Reportage d'Alice Campagnol dans le quartier de Petare à Caracas, une favela, l'un des plus grands quartiers populaires d'Amérique latine.
Hola, buena.
Chez Karen, l'eau arrive une fois par semaine, le dimanche en général.
À cette heure-ci, l'eau devrait être en train d'arriver dans la zone numéro 8 à côté. Tout le monde se dépêche parce que là-bas, ils n'ont qu'une heure ou deux. Ils se douchent, se lavent les cheveux, etc. Et ensuite, ils ferment pour cette zone et ouvrent les canalisations pour notre quartier. Mais comme tout le monde est à sec, toutes les maisons ouvrent leur arrivée d'eau et donc l'eau n'arrive pas en bout de réseau. Pendant les 3 jours que nous avons, nous arrêtons de travailler, de dormir et on remplit tout. Absolument tous les récipients que nous avons, jusqu'aux petites cuillères. Quand l'eau arrive, je me lève dans la nuit avec mon mari et on commence à tout remplir, les bidons, les bouteilles, etc.
Avec 7 enfants sans eau courante, le quotidien peut s'avérer très compliqué.
La menstruation.
Avoir ses règles, par exemple. L'une de mes filles ne va pas à l'école pendant ses règles. Entre autres, car elle ne peut pas laver ses vêtements tachés de sang. Et puis à l'école, il n'y a pas d'eau non plus, c'est vraiment stressant.
Et quand tous les récipients sont vides, les habitants optent parfois pour aller chercher l'eau à une source dans le quartier.
Une fois, nous n'avons pas eu d'eau pendant 15 jours. C'était un problème dans l'une des canalisations principales. Eh bien, pas le choix, j'ai dû prendre tous les récipients et monter jusqu'à la source, plus haut dans le quartier, avec une brouette. Car dans nos toilettes, ce n'était vraiment plus supportable. Mais le problème, c'est que l'on ne sait rien sur cette eau. Elle est peut-être polluée, il y a peut-être des polluants cancérigènes ou des excréments d'animaux, on n'en sait rien.
Karen appartient à un réseau de femmes pour le droit à l'eau et justement, aujourd'hui, il y a une réunion. Une petite dizaine d'habitantes du quartier est réunie et c'est Dianette Blanco, la coordinatrice.
Comme on l'a entendu pendant l'atelier, l'eau est nécessaire pour tout, pour doucher les enfants, pour se laver soi-même, pour nettoyer la maison, pour cuisiner. Et qui sont les personnes qui se chargent en général de tout cela dans un foyer ? Les femmes. J'ai écouté pas mal d'exemples aussi où elles sont obligées d'aller chercher de l'eau assez loin de chez elles, tout en bas des escaliers du quartier. Et cela leur provoque des varices, des hernies discales, des problèmes au cervical, entre autres. Et quand je dis « entre autres », je veux dire que si l'eau n'arrive pas totalement propre, potable, eh bien les gens ont des infections gastro-intestinales ou même des éruptions cutanées.
Une experte est venue donner des conseils pour s'assurer d'avoir une eau propre et consommable à la maison.
Ce sont des recommandations très simples que je donne. Faire bouillir de l'eau et s'il n'y a pas de gaz, eh bien la chlorer. Mais attention, la manière de chlorer est importante. Quand on achète du chlore, il faut être attentif à sa concentration et en fonction de cela, calculer le nombre de litres correspondant à la pastille de chlore que l'on a. Ce sont des conseils pratiques, très simples, mais il faut absolument que les gens les connaissent.
Dans le quartier de Petare, comme dans tout le pays, les Vénézuéliens réclament une amélioration de leurs services publics, tous dans un état lamentable, et l'eau courante est en tête des exigences. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Au Pérou, l'ancien président Ollanta Humala a passé sa première nuit en prison. Hier, il a été reconnu coupable de blanchiment d'argent dans le cadre du scandale Odebrecht, ce géant brésilien du BTP qui distribuait des pots de vin pour obtenir des marchés publics. Ollanta Humala a été condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Il a fait appel. Et puis un autre ancien chef d'État aux prises avec la justice en Argentine cette fois-ci, Alberto Fernandez, au pouvoir de 2019 à 2023, comparaîtra devant un tribunal. Hier, la Chambre fédérale d'appel a estimé qu'il devait être jugé pour des violences sur son ex-compagne. L'ancien président de gauche risque jusqu'à 18 ans de prison. L'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand, et les rivières de la Martinique qui sont dans un état médiocre. C'est en tout cas le cri d'alarme lancé hier par l'Office de l'eau et le parc naturel marin.
La question a été évoquée hier donc lors d'un colloque scientifique au Palais des Congrès de Schœlcher. Les dégradations constatées dans les cours d'eau seraient importantes en Martinique, pour ne pas dire inquiétantes. Mélissa Bocali de l'Office de l'eau au micro de La Première.
On a des dégradations quand même assez importantes de la qualité environnementale de nos rivières à partir du moment où on a de l'urbanisation. Donc en fait, on constate que lorsqu'on est dans les zones naturelles, en amont, des bassins versants, on a plutôt une bonne qualité. Et puis quand on descend vers l'urbanisation, les zones industrielles, etc., là, ça se dégrade. Et on a des dégradations type pollution. Ça peut être l'assainissement, des eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées. Mais on apporte trop de nutriments dans le milieu, c'est-à-dire de la matière que les algues utilisent pour se nourrir. Et on étouffe le milieu, en fait, en faisant ça. On a des pollutions liées aux pesticides, donc qui peuvent avoir des effets toxiques sur le milieu. Et puis on peut avoir aussi des pollutions liées aux déchets. Et là, même dans les zones amont, dans les zones naturelles, on observe des dépôts de déchets sauvages, des batteries, des voitures, de l'électroménager, etc. Donc même dans ces zones sauvages, on a des dégradations du cours d'eau. On va aussi avoir des dégradations physiques, des gens qui vont venir couper toute la végétation naturelle des berges. Et ça, ça a des impacts vraiment négatifs sur la qualité environnementale de nos milieux. Ou on peut avoir aussi des constructions illicites dans les cours d'eau, des guets qui ne sont pas autorisés, des ouvrages qui vont totalement bloquer l'écoulement des eaux.
Mélissa Bocali au micro de Mike Irasque. 95 millions d'euros consacrés en 2024 à la Martinique par l'AFD, l'Agence française pour le développement. C'est 20 millions de plus qu'en 2023. Ce sont surtout les collectivités locales qui ont bénéficié de cet apport d'argent frais, sans oublier toutefois d'autres investissements, comme par exemple le rehaussement des portiques du port de Fort-de-France. Guillaume Chiron est le directeur de l'AFD Martinique. Il est au micro de Mathieu Fontès.
L'activité de l'AFD en Martinique en 2024, c'est 95 millions d'euros, notamment en faveur des collectivités territoriales, au premier rang desquelles évidemment la CTM, mais aussi la CAES, l'Espace Sud, et puis des communes martiniquaises, le Lamentin, Rivière-Salée, les Trois-Îlets et Basse-Pointe. Donc on intervient à la fois sur les grandes et les petites communes. On intervient également sur les grands projets d'infrastructure, notamment sur le Grand Port, avec la CAES sur les sujets d'eau potable et puis de SMTVD sur la gestion des déchets. On a un volume d'activité qui est un peu supérieur à l'an dernier, puisque en 2023, on avait accordé 75 millions d'euros. Donc là, c'est un peu plus important. Et après, l'AFD, d'une façon générale, en Martinique, c'est un volume d'activité de l'ordre de 100 millions, 120 millions d'euros par an.
Bon après-midi, Clotilde. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Il est presque 13h30 en temps universel. On se quitte avec un petit peu de musique. Joé doit filer avec son titre Cap Campé sur RFI.
Ça vient d'en crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu
chemin, je suis tes babes, c'est tout droit. À garde tes plaques, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai le talent, vini. Vini, vini, pas timide. Drive à Lamborghini. J'ai nous sous ça, campé dans la dame. Bamele, bamele. Full BBL, baby.
Joey Douette filet, 4 campés sur RFI. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui RFI Midi. Merci à Olivier Roux à la réalisation, Chantal Leroux à la rédaction en chef. Dans un instant, de vive voix avec Pascal Paradou. Bonne journée à tous.